Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux élections fédérales allemandes qui marque un véritable tournant, d'abord avec le retrait d'Angela Merkel qui ne se représentait pas après 16 années à la tête de la chancellerie. Donc cette fois-ci, le scrutin semblait plus ouvert et les résultats, comme les derniers sondages le prévoyaient, assez serrés au point que pour la première fois, les Allemands ignorent l'identité même de leur futur chancelier au lendemain de l'élection. C'est donc finalement les sociodémocrates du SPD, emmenés par Olaf Scholz, qui arrivent en tête du scrutin avec 25,7% des suffrages, devançant d'assez peu la CDU, partie de la chancelière Merkel et conduite par Armin Laschet avec 24,1%. Mais en très net recul par rapport aux dernières élections de 2017. Les Verts et Annalena Baerbock obtiennent 14,8% des suffrages et les libéraux du FDP avec 11,5% sont donc désormais les faiseurs du roi, comme on les appelle. Ils sont quasi incontournables pour former une coalition. Les extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont en net recul. L'extrême droite et l'AFD obtient 10,3% en légère perte de vitesse et Die Linke sauve de très peu sa présence au Bundestag avec 4,9% des voix. Alors pour analyser ces résultats, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir dans nos studios deux acteurs de la presse franco-allemande. Caroline Olivier, rédactrice en chef de Arte Journal, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc rédactrice en chef d'Arte Journal, on rappelle, c'est tous les soirs à 7h45.
Absolument.
Sur Arte.
C'est ça.
Un journal incontournable. Et de l'autre côté du studio, Kai Littmann, rédacteur en chef du journal franco-allemand en ligne, eurojournaliste.eu, et chroniqueur sur France Bleu Alsace le matin à 8h15, c'est ça?
C'est exactement ça, monsieur.
Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'organiser l'émission un petit peu en deux temps. Parler d'abord un peu des conséquences internes et essayer d'après de toujours ouvrir un peu sur cet aspect franco-allemand, voire européen. Des conséquences un peu de cette élection. Alors j'ai une première question qui s'adresse à vous deux en fait. Qu'avez-vous pensé de cette campagne? Vous a-t-elle passionné ou passionné plus que les précédentes? Je laisse la parole à Caroline Olivier d'abord.
Alors oui, elle m'a passionné, mais seulement dans un deuxième temps en fait. Dans un premier temps... J'étais un peu, comme beaucoup de journalistes, déçus par le choix des candidats qui nous semblaient tous un peu mous, avec un programme pas vraiment surprenant. La campagne prenait pas vraiment de dynamique. Et puis, avec la chute de la CDU et le rapprochement des partis, donc la montée des Verts, la chute de la CDU, on voyait que ça devenait plus intéressant parce que justement, toutes les possibilités, tout d'un coup, étaient ouvertes. Et là, journalistiquement, évidemment, ça devient très intéressant. Et on sentait aussi que l'intérêt des Allemands, tout d'un coup, était plus grand. Et je dirais, à partir de fin août, ça devenait vraiment, vraiment intéressant. Et on voit maintenant, on va en parler, je pense... qu'il y a vraiment un réaménagement du paysage politique en Allemagne.
Et Kai Littmann, vous êtes d'accord? C'était plus intéressant qu'avant?
Disons, il y avait une américanisation de cette campagne avec plusieurs... ils appelaient ça des triels, donc c'était des duels à trois entre les candidats. Et du coup, effectivement, c'était des candidats relativement ternes dans un format qui nécessite beaucoup de vivacité. Les débats étaient franchement ennuyeux. Il s'agissait surtout des personnes et pas tellement des
ouais,
contenus.
C'est un des commentaires que j'ai entendu. Il y avait une sorte de personnification quand même de l'élection sur des personnes et non sur un parti, alors que d'habitude, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'est ça que vous entendiez par américanisation.
Tout à fait. Oui, et surtout ce format des débats télévisés à l'heure de grande écoute. On n'a pas tellement l'habitude en Allemagne d'avoir ce type de format, mais c'était des débats qui étaient très différents, par exemple, d'un débat en France. Les gens étaient très polis, on se laissait parler, il n'y avait personne qui coupait la parole à l'autre, ça ne criait pas. C'était un peu trop civilisé.
Ça fait presque rêver.
Vu d'ici. On se le demande. ça manquait un peu quand même de peps.
Ouais.
Oui, ça, bon. C'est le problème avec les formats qui se focalisent sur les personnages, mais puis les personnages ne suivaient pas cette exigence, parce que c'est des personnages, oui, plutôt calmes, ouais, sobres.
Alors, on a quand même vu, donc, malgré donc, ce cadre, qu'il y avait 76% des électeurs qui ont voté, ce qui est relativement un bon résultat. On a aussi vu une chose, c'est que le vote par correspondance a été très important. Alors que nous, les dernières élections, on a eu des taux de participation très faibles en France. On verra ce que ce sera aux élections présidentielles, mais le taux de participation était très faible. Et est-ce que pour vous, le vote par correspondance là, a joué aussi quelque chose pour la participation? Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'était quand même assez, c'est pas neuf, mais 40% je crois des gens ont voté par correspondance.
Ah oui, bah le taux de correspondance était phénoménal, c'est vrai. Mais bon, la participation dans son ensemble, je pense que c'était à peu près pareil que la dernière fois. Moi, je pense, franchement, ça a surtout facilité la chose pour beaucoup d'Allemands qui avaient pris l'habitude de faire des choses à distance. Hein. Le travail à distance, les courses à distance, maintenant le vote à distance. C'était plus, c'était plus ça, faciliter la procédure. Hein.
Ben c'est la différence est même linguistique, tandis qu'en France, on parle du taux d'abstention, surtout dans les médias. En Allemagne, on parle du taux de participation. Et je trouve que déjà, cette différence, elle est assez intéressante.
En France, il faut qu'on donne un premier chiffre. Le premier chiffre qu'on peut donner, c'est le taux d'abstention. Ouais. Alors que
c'est ça.
C'est pas un sujet en Allemagne. Ouais.
Voilà. Et je trouve ça assez intéressant qu'on fasse cette distinction linguistique.
Ouais. Alors, vous qui avez un peu ce regard franco-allemand, comment vous expliquez que le vote par correspondance n'arrive pas à prendre en France ou le vote à distance, alors qu'en Allemagne, c'est devenu quelque chose de courant. Nous aussi, on a été en télétravail. Hein. On pourrait imaginer.
Mais vous n'avez pas la possibilité, juridiquement.
On a une possibilité si on ne peut pas s'y rendre, mais c'est compliqué. Hein. Il faut aller, je crois, au commissariat de police pour avoir une autorisation. C'est une procédure assez compliquée. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ouais. Donc, moi, je suis toujours surpris de voir que ça marche bien ailleurs et que nous, on n'y arrive pas.
Ben, les gens ont plus de temps pour voter. Effectivement, c'est très facile. Il suffit de passer à la mairie, chercher les documents. Et après, on a, je pense, une semaine pour effectivement faire son vote. C'est un peu comme aux Pays-Bas où l'élection dure 3 jours. Donc, on n'est pas figé à 1 jour sur certains horaires. Je pense faciliter le fait de voter aux gens, ça augmente le taux de participation.
Donc, c'est donc Olaf Scholz, le SPD, qui arrive en tête. C'est donc normalement lui qui devrait être le futur chancelier. Hein. Je disais tout à l'heure, on ne sait pas, parce que c'est vrai que c'est assez serré. Armin Laschet n'a pas tout de suite dit qu'il ne tenterait pas de faire une coalition. Donc, il a laissé planer un peu le doute. Comment expliquez-vous ce retour surprise du SPD, qui, il y a quelques mois encore, n'était crédité que de 15% des voix dans les sondages? Est-ce la victoire du SPD? C'est un signe durable ou est-ce que c'est lié aux circonstances, la faiblesse de la CDU ou de Laschet, ou même des Verts finalement qui ont baissé, ou Die Linke qui s'est également effondré dans cette élection? C'est quoi, elle est due à quoi cette victoire?
Ben c'est surtout la faiblesse de la CDU, à mon avis. C'est vraiment... personne n'aurait cru que Olaf Scholz pourrait devenir kanzler il y a quelques mois. C'est vraiment une grande surprise et peut dire un grand merci à Armin Laschet et à la CDU. Parce que au niveau de... Si on regarde qui a voté pour la SPD, ce qui a fait gagner la SPD, c'est surtout les retraités. C'est pas les Verts, c'est pas les jeunes qui ont voté vraiment Verts et libéraux. C'est grâce à un grand mouvement d'électeurs de la CDU vers la SPD.
Sur les 3 grands candidats, il y avait 2 erreurs de casting. Armin Laschet était le candidat de la CDU qui était même rejeté par les adhérents de son propre parti. À une semaine de l'élection, il avait un taux d'approbation général dans la population de 8%. Un candidat qui a un taux d'approbation de 8%, le mieux qu'il puisse faire, c'est se retirer le plus vite possible. Et Annalena Baerbock, c'était pareil. J'ai dit, il y a 3 mois, les Verts étaient en tête dans les sondages. Après, elle a accumulé quelques gaffes, quelques petits scandales. je pense que si les deux candidats avaient été Marc Söder de la CSU et de l'autre côté Robert Habeck, le résultat des élections aurait été tout à fait
Absolument,
différent.
Ouais.
Mais là aussi, on voit que aujourd'hui, c'est Armin Laschet qui est montré du doigt. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment la CDU aussi qui a des difficultés en elle-même? Parce qu'on se souvient des fameux scandales qu'il y a eu avec les masques au début de la crise du Covid. Est-ce que ça a marqué finalement la CDU? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'en gros, on met tout sur Laschet, mais finalement, c'est peut-être la CDU qui a des problèmes.
Totalement, et je pense que c'est la grande erreur d'Angela Merkel, ne pas avoir organisé sa succession. Pendant de longues années, chaque successeur ou successeur potentiel a été placé au ministère de la Défense, en siège éjectable où on ne pouvait pas briller, et elle a brûlé l'un après l'autre ses possibles dauphins pour se retrouver finalement avec un Armin Laschet dont personne ne voulait.
Mmh. Ben c'est vrai que tout se focalise maintenant sur Armin Laschet, mais c'est presque un symbole pour l'état désastreux général du parti, parce qu'effectivement, si on repense au scandale des deals des masques au printemps, après le grand duel entre Söder et Laschet, là déjà, tout le monde critiquait la CDU en disant, voilà, on voit ce que fait 16 ans au pouvoir avec un parti qui s'est trop confortablement arrangé dans cette position qui n'a plus du tout une remise en question des propres structures. On l'avait un peu oublié, tout s'est focalisé sur Laschet. Mais c'est vrai que maintenant reviennent au grand jour tous les conflits intérieurs. Et je pense qu'il y aura une grande réorientation, remise en question de ce parti.
Ouais. Alors revenons. Ah, oui.
Il y a peut-être encore un point qu'il faut ajouter. Olaf Scholz a beaucoup travaillé pendant la campagne sur sa proximité justement avec Angela Merkel. Il a souligné tout le temps qu'il était le vice-chancelier d'Angela Merkel, qui sont très bien entendus, et représentait une certaine continuité. Armin Laschet, c'est un peu paradoxal, mais c'est le candidat de la CDU qui n'a pas pu véhiculer cette continuité qu'Olaf Scholz...
Sauf en fin de campagne, a priori. À la fin de campagne, Angela Merkel, c'est un
beaucoup
peu compliqué.
Trop tard.
Alors, il nous reste donc deux partis qui sont ce qu'on a appelé les faiseurs du roi. Donc, il y a le FDP et les Verts. Ces partis, ils avaient déjà essayé de former avec, en 2017, une coalition. Et donc, il y a eu un échec. Hein, le FDP n'avait pas souhaité continuer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque cette fois-ci que le FDP et les Verts ne s'entendent pas, ou cette fois-ci, ils sont prêts? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, y a toujours un risque. C'est pas fait. Mais ils ont beaucoup appris après cette défaite la dernière fois, effectivement. Et ça, je trouve très intéressant. C'est vraiment une des grandes leçons pour moi de ces élections. Tout de suite après l'annonce des résultats, les deux camps, donc FDP et Verts, ont tendu la main et ont dit on va d'abord sonder nous, entre nous. Et ça, c'était très malin, très habile. Je pense qu'ils ont gardé pendant toutes ces dernières années des réseaux entre eux. C'est un peu étonnant parce qu'ils sont très différents, mais je pense qu'il y avait des contacts déjà établis. Et donc, du coup, facilement, ils ont pu commencer à discuter. Et là, il y a une vraie volonté, je pense, des deux petits d'utiliser cette situation et de se faire les faiseurs de roi.
Pourtant, ils sont très différents. Moi, on peut être surpris par le programme. Déjà, il y a deux choses qui sont surprenantes. Déjà, ils ont été élus principalement par des jeunes. Pourtant, voir des jeunes voter pour des libéraux, aujourd'hui, nous, en France, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens voteraient pour des libéraux, encore qu'il y a quand même des jeunes avec Macron aujourd'hui. Mais c'est déjà, il y a cette surprise. Après, il y a la deuxième surprise, c'est... Le programme, il y a les Verts qui sont quand même pour faire de l'endettement public, pour passer à la transition climatique. On voit que les libéraux sont quand même plus proches du milieu des entreprises. Comment vous pensez qu'ils arriveront quand même à trouver des angles d'entente?
Les deux partis ont envie de participer au gouvernement, c'est très très clair. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que déjà lundi, donc le lendemain de l'élection, il y avait la première rencontre entre les Verts et les FDP.
Ils l'ont bien montré.
Ils l'ont bien montré, et visiblement ça s'est très bien passé, donc ils sont parfaitement conscients du rôle qu'ils jouent. C'est un peu étrange parce que les deux premiers partis, donc la SPD et la CDU, ne peuvent pas être sûrs de faire partie du prochain gouvernement. Le parti numéro 3 et 4, eux, ils sont dans le prochain gouvernement, quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'ils vont faire des compromis énormes. On l'entend déjà aujourd'hui dans certaines communications qu'on peut éventuellement revoir un tel ou un tel point qui était déterminé comme sine qua non, comme condition sine qua non pendant la campagne. Aujourd'hui, on se rapproche et je pense que les deux vont faire cause commune.
Donc, vous pensez que ça ira vite, finalement, la création de cette coalition, ce gouvernement ? Non. En tout cas, plus vite qu'en 2017.
Peut-être plus vite qu'en 2017, mais ce sera une longue négociation. Ce sera au plus offrant, si la CDU offre davantage au FDP.
Vous croyez encore à la CDU et une coalition à trois avec la CDU ?
Peut-être pas avec l'Hachette, mais il y a actuellement encore tout qui est possible. S'il faut la CDU-CSU, qui est quand même un groupe, s'il faut, ils vont relancer Zeder dans les négociations, s'ils n'arrivent pas très rapidement à se mettre d'accord avec l'SPD. Il y a même encore mathématiquement la possibilité d'un remake d'une grande coalition. En 2017, c'est l'SPD qui s'est sacrifié, qui nous dit que ce sera en 2021 pas la CDU qui, au dernier moment, si les autres partis ne jouent pas le jeu, dit bon d'accord, cette fois-ci c'est notre tour. J'y pense pas, mais...
Ouais, mais qui veut être dans une coalition avec Lachette, ouais, peut-être avec Zeder. C'est vrai que tout est possible, mais vu d'ici, de maintenant, une coalition avec la SPD semble plus probable.
Vu de France, on a l'impression d'avoir un deuxième tour, en fait. On avait le premier tour qui était, on choisit donc les partis et les personnes, et maintenant on a un deuxième tour qui est plus politique, on va dire, qui est un peu, on ne peut pas dire que c'est de la magouille, parce qu'en France on présenterait ça comme de la magouille de parti, en France on ne comprendrait pas ça. Alors que là on a des vraies discussions avec un programme qui va quand même être gouvernemental, qui va être établi, ils appellent ça un traité de coalition quasiment. Hein. Ouais. Et donc on ne le voit pas comme ça, mais d'une certaine manière... c'est un peu ce qui va se passer, donc on a toutes les possibilités encore, même du SPD, de la CDU, selon vous, qui pourraient se retrouver.
Mathématiquement, oui, je pense comme vous, je ne pense pas que ça sera le cas, mais en 2017, on ne le pensait pas non plus, que le FDP allait sortir de cette nouvelle coalition, mais vraiment sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant, oui, je pense que tout est encore possible.
Alors revenons maintenant au fond. On a été surpris aussi, vu de France. Hein, moi, je parle vraiment de mon regard vu de France. On n'a pas parlé islam, on n'a pas parlé immigration, on n'a pas, alors qu'il y a eu quand même une vague migratoire importante avec 1 million de réfugiés après la crise de 2015. Comment on explique ? Est-ce qu'on se voile la face en Allemagne ou est-ce que c'est vraiment des débats apaisés ou est-ce que nous, on est vraiment ce que je peux penser aussi un peu des un peu fous en France. On se crée des problèmes, des surproblèmes, on en a déjà, on en rajoute un peu.
Je pense que ça s'est effectivement beaucoup calmé, hein, ce débat en Allemagne. Je ne veux pas dire que ce n'est plus un problème, mais ça compte pour les Allemands clairement pas parmi les grands problèmes. On a pu le voir dans les sondages. Les grandes questions, c'est le climat, évidemment, surtout pour les jeunes. C'est aussi des questions sociales, hein, tout simplement. Les retraites, les hôpitaux, la santé, tout ça, ça compte plus. Donc oui, pour le dire positivement, ça s'est calmé. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais effectivement, je pense que c'est surtout ça.
Est-ce que c'est un effet Merkel, ça ?
Oui, sans aucun doute, parce que c'était qui en 2015 avait permis à même plus d'un million de réfugiés de venir en Allemagne. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est les programmes d'intégration ont beaucoup mieux fonctionné en Allemagne qu'en France. Sur les presque 1,5 million de réfugiés arrivés en Allemagne depuis 2015, il y a plus de 300 000 qui aujourd'hui ont trouvé du travail, qui sont logés correctement, qui sont vraiment intégrés dans la société allemande. Donc je pense que cette confrontation, les immigrés, on peut genre Zemmour, il faut absolument s'en méfier. On le voit, ils sont de mieux en mieux intégrés. C'est pour ça que je pense que ça ne jouait aucun rôle dans la campagne.
Alors on va faire une petite pause musicale en écoutant un rappeur issu de la première vague migratoire turque, hein, qui s'appelle Summer Sem avec Tamam Tamam.
Vor der Tür stehen rund 1000 Mann. Bitches gibt kein Kuss auf die Hand. Nur Fotos plus Autogramm. Easy, easy, tamam, tamam. Immer rufen die Kunden mich an. Und sie bringen mich um den Verstand. Heute schneit es 100 Gramm. No Sekunde, tamam, tamam. Pop eine Mali. Rock, rock, ihr Bali. Durch die
Stadt im Ferrari mit Carpas und Barbies zu einer 80er Party.
Red nicht von an, der Beat geht babam babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy easy, tamam tamam. Egal wo ich hingeh, ich werd erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt. Nobu Malibu, wer kann, der kann. Easy, easy, tamam, tamam. Pronto, pronto, Babantiland. Komm mir nicht mit Falland, Filan. Eine Faust, ein Koffer, Sidan. No Sekunde, tamam, tamam. Pop eine Mali. Rock, rock your body.
Fahr mit Hassan und Ali auf Schnaps und Bacardi zu ner 80er Party.
Red nicht von an, der Beat geht babam babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy easy, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Easy easy, tamam tamam.
On voit, hein, là, l'Allemagne, c'est aussi moderne, hein, même si dans les débats, c'est plus mou. Là, c'est très actif. Alors, je voulais continuer à vous poser cette fois-ci des questions par rapport à l'aspect européen. On a trois partis, donc si on garde le SPD, le FDP et les Verts, on a trois partis pro-européens. Pourtant, ils n'ont pas non plus les mêmes idées. Si on a parlé du climat, si on prend les questions de défense, comment... Vous voyez-vous la suite par rapport à leur programme et leur compatibilité avec, cette fois-ci, les questions européennes, qui n'ont pas été très débattues pendant la campagne?
Je pense que, comme vous dites, hein, ils sont pro-européens, ça, il faut le souligner trois fois, donc ça ne va pas énormément changer. Je pense que ça se joue plus sur... Je ne dirais pas les détails, mais qui va devenir ministre des Finances, par exemple? Ça, c'est une grande question, je pense, surtout pour les Français aussi. Si c'est un libéral, ça va changer des choses, parce qu'il a une autre vue sur les questions pacte de stabilité, dette, etc. La défense, effectivement, est-ce que la coopération avec la France et ses idées d'une union sécuritaire... Là, je pense que les Verts sont beaucoup plus pro-intégration, même des dossiers un peu sensibles. Mais bon, Scholz, il est un peu au milieu, donc il va peut-être faire le médiateur.
C'est quand même Scholz qui a permis le fameux plan de relance et cette dette commune européenne, donc en tant que ministre des Finances. Donc lui, il sera quand même là. Est-ce que...
Il n'y aura pas de grand changement au niveau de l'attitude allemande vis-à-vis de l'Europe. Et il faut bien se dire que ce soit maintenant une coalition comme on le prévoit avec Scholz, l'FDP et les Verts ou avec la CDU, on restera au centre et on aura un gouvernement soit de centre-droite, soit de centre-gauche, avec actuellement une tendance centre-gauche. Je pense celui qui est en chouïa plus européen, c'est Olaf Scholz, qui, quand il était maire de Hambourg, était chargé plénipotentiaire pour la coopération culturelle franco-allemande. Il y avait plein de manifestations françaises à Hambourg à cette époque-là. Il est très tourné vers la France. Armin Laschet, c'est plus le Benelux, parce qu'il est ministre-président de la Rhénanie du Nord, avec des voisins en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Mais dans le fond, il n'y aura pas grand changement.
Mais s'il n'y a pas de grand changement sur cet aspect-là, il y a quand même un élément qui a souvent été reproché à Merkel, c'est qu'elle n'avait pas de vision européenne. On l'a appelée la gestionnaire, hein, plutôt quelqu'un qui réagissait aux crises. Est-ce que là, on peut imaginer avoir une vision de... Par exemple, on a quand même Emmanuel Macron, au début de son mandat, il a fait son discours de la Sorbonne en donnant sa vision de l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une vraie vision européenne du côté allemand?
Je pense pas, personnellement. Je pense pas. Si on regarde bien, le sujet de l'Europe est rentré dans la campagne à 2 semaines de la date du scrutin. C'était vraiment un sujet orphelin qui n'intéressait pas grand monde. Du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des belles propositions qui n'engagent finalement personne. C'est très simple de se mettre dans une campagne en disant « Je veux une armée européenne et l'équivalent du FBI européen. » Sachant qu'il y a 27 qui doivent être d'accord, que sur les 27, il y a minimum 3 qui sont contre. Et donc, ça ne se fera pas. Mais ça fait bien de le dire, de se montrer comme européen. Mais il n'y aura pas de changement.
Peut-être, s'ils arrivent à vraiment mettre en avant le dossier du climat, je pense que là, forcément, le climat, c'est un sujet transnational et les Verts ont beaucoup parlé du pacte climatique européen.
De sortir la dette climat du fameux pacte de stabilité, donc de l'endettement lié au climat, pourrait sortir de la fameuse dette publique que chaque pays doit respecter.
Voilà, je pense que toute la thématique climat permettrait quand même un avancée européen si jamais cette coalition au niveau allemand se fait.
Ça me fait penser à un sujet. En France, c'est pas très, on va dire, très médiatisé, mais il y a quand même cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui commence à bien travailler. En Allemagne, on en parle de cette conférence sur l'avenir de l'Europe ?
Pas du tout.
Pas trop, non. Dans la région frontalière, au pays de Bade, on a le regard tourné vers Strasbourg, vers les institutions européennes. Il y a des associations, des groupes qui jouent le jeu. Vous quittez un peu notre région frontalière, il n'y a plus personne qui en parle.
Ouais. Il y a une des autres craintes, c'est on parle d'une forme d'hibernation, d'un moment un peu mou qu'il va y avoir maintenant, le temps que la coalition se fasse à... du côté du gouvernement allemand. Donc ça peut prendre du temps. Et on a du côté français ces fameuses élections qui vont avoir lieu à partir de ce... qui ont déjà commencé, hein, mais qui vont quand même bloquer un peu. Et une présidence française qui aura lieu en même temps. Et donc certains disent les Allemands vont rien pouvoir faire pendant 6 mois et le gouvernement français va rien pouvoir faire pendant les 6 prochains mois. Donc en gros, on a un an de il va rien se passer. Vous voyez ça comme ça aussi ?
Oui, absolument. Je trouve que là, il y a vraiment déjà les dernières années, je trouve le couple franco-allemand avait pas mal de difficultés. Et là, c'est presque à l'arrêt. Donc là, je vois vraiment un grand problème pour les relations franco-allemandes, mais surtout pour le dynamisme européen.
On peut encore ajouter que l'Allemagne présidera le fameux G7 des grandes puissances mondiales.
Mais il est évident qu'Angela Merkel ne va pas ouvrir maintenant des nouveaux dossiers, ne va pas engager l'Allemagne dans cette phase où elle assure la chancellerie de manière commissaire. Donc effectivement, je partage cet avis. On rentre dans une phase vraiment d'une certaine paralysie jusqu'à ce que tout soit clarifié en France et en Allemagne.
Ok, mais j'aimerais terminer cette émission. On termine actuellement cette émission sur un peu cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, j'aimerais vous poser une question à vous qui n'a pas cette fois-ci un lien spécialement par rapport à cette élection. C'est juste si vous aviez un souhait pour l'Europe, dans 10 ans, dans 15 ans, ce serait quoi ? Alors je commence par Kai cette fois-ci. Quel serait votre souhait ?
Je rêve depuis de longues années d'une Europe fédérale, qu'on arrête enfin avec ce règlement interne de l'unanimité qui paralyse l'Europe dans tous les grands dossiers et qui finalement a fait en sorte à ce que notre continent, avec 500 millions d'habitants, ne joue quasiment aucun rôle sur l'échiquier international. Quand je pense que les États-Unis ont 330 millions d'habitants et leur poids dans la politique internationale, en principe, nous, on devrait être à leur place, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et ça, je pense qu'il faut le changer le plus vite possible.
Et Caroline, vous avez...
Moi, je reviens un peu à cette thématique climatique, peut-être parce que j'ai des enfants et je vois... aux élections, à quel point ça mobilise et ça passionne les jeunes. Et je me dis, le climat, ça, c'est le sujet qui peut fédérer et mobiliser un peu la nouvelle vision européenne dont on a besoin. Je souhaiterais que ça peut être ce sujet qui nous mobilise.
Alors, merci à vous deux. Merci, Caroline Olivier. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Arte Journal. Donc à Strasbourg, hein, qui est donc produit et réalisé à Strasbourg ici, et Kai Littmann du site eurojournaliste.eu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.
Merci.
Radio Judaïca, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.